Bienvenue sur le podcast de Fitness Miss. Alors, si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel. Et mon obsession, c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal. Donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus. Et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves. Après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site sur les mêmes thèmes, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnessmiss.fr. On démarre. Salut à tous, aujourd'hui j'ai un invité particulier qui va nous apporter pas mal sur déjà sur la vie au Canada, sur ses études, son parcours. Donc j'ai le plaisir d'inviter Layan. Salut Layan.
Salut Théo.
Donc alors parle-nous un petit peu de ton parcours. Tu t'es parti au Canada pour suivre des études dans le milieu du sport. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça?
Alors ouais, c'est ça. Moi, je suis une formation STAPS en fait, donc une formation STAPS à l'université de Grenoble, et je me suis spécialisé dès la deuxième année en ce qu'on appelle STAPS APA. Donc APA, c'est activité physique adaptée et santé. Donc en fait, c'est faire de l'activité physique aux personnes qui ne peuvent pas en faire. Par exemple, les personnes en situation d'handicap mental, moteur, les personnes âgées. Va y avoir aussi de la réinsertion sociale avec le sport dans les milieux carcéraux, dans les foyers, etc. Mmh. Et donc, j'ai choisi de faire ma troisième année de licence au Canada, au Québec, à la ville de Trois-Rivières, qui est une petite ville entre Québec, la ville de Québec et Montréal. Ouais. Je fais toute ma troisième année ici.
Ça a été difficile de partir? Enfin, je veux dire, par rapport à ton... quand tu étais dans le milieu des études ici, le fait de décider de faire ta troisième année là-bas, c'est quoi la procédure?
Alors, en fait, le plus difficile, c'est pas forcément de prendre la décision ou de partir, mais c'est vraiment la paperasse. Tous les papiers, en fait, à faire. Donc, si tu veux, tu commences... moi, j'ai commencé en octobre 2017, si je dis pas de conneries, à faire les papiers pour terminer j'ai eu ma réponse finale en juin 2018.
D'accord.
Donc tu as toute une année en fait où tu dois monter un dossier. Ouais. Donc ça c'est vraiment très compliqué, tu dois faire des lettres de motivation, une estimation budgétaire, regarder tous tes cours, est-ce que ça convient à ton parcours, parce que le parcours APA est quand même un parcours qui est un petit peu particulier en STAPS, qui n'est pas donné dans toutes les universités, qui n'est pas donné partout en Europe. Mm-hmm. Par exemple, j'avais une idée de partir à Bruxelles. Bruxelles est vraiment plus entraînement sportif que APA. D'accord. Donc, ça a été très compliqué à ce niveau-là, en fait, où tu étais constamment dans de la paperasse, voilà, monter le dossier.
Tu t'es renseigné, enfin je veux dire, quand t'as décidé de le faire, t'as tapé ça sur internet, t'as un site internet à recommander pour tout ça ou...
Par rapport au papier à faire?
Ouais.
Alors j'ai été indiqué en fait par mon université. Donc ouais. Si tu veux, normalement chaque université a un responsable des relations étrangères, un responsable des échanges internationaux. Mm-hmm. Et donc ce responsable va te dire, bah voilà, il faut que tu fasses telle ou telle demande de telle ou telle façon. Donc, tu as quand même des modèles. L'université te donne des modèles. Ouais. Tu es quand même encadré. Pour le choix des cours, tu vas sur le site de l'université, tu regardes les cours et après, tu en parles avec ton responsable. Pour la lettre de motivation, après, je me suis renseigné autour de moi sur les personnes qui étaient déjà parties. Qu'est-ce qu'il faut faire comme lettre de motivation? Donc, alors évidemment, le premier truc à ne pas dire, c'est « je veux partir au Canada parce que j'aime bien voyager ». Enfin, ouais. Ça doit pas être la raison principale étant donné que
c'est pas les vacances quoi.
Ouais, c'est pas les vacances. Exactement. Après, pour le plus compliqué, je trouve, si t'as pas de relation dans le pays ou si t'as pas vraiment d'idée, c'est l'estimation budgétaire. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des connaissances au Québec qui ont pu me dire, bah voilà, le coût de la vie, c'est plus ou moins ça.
Ouais.
Parce qu'il faut vraiment que tu listes absolument tout. Donc, moi, je peux conseiller les gens d'aller voir des blogs. Maintenant, avec Internet, il y a énormément de blogs, d'aides, de forums. Les gens parlent de leur expérience. Donc, si on n'a pas de connaissances sur place, ça peut vraiment être assez utile, justement.
D'accord. Et toi, du coup, quand t'es arrivé, toi, t'avais un pied à terre là-bas, quoi.
Pas du tout.
D'accord.
Non, pas du tout. En fait, bon, moi, je suis arrivé, j'ai fait une arrivée vraiment en douceur, dans le sens où je suis arrivé bien avant avec ma sœur, parce qu'on voulait se faire des vacances. Mon père nous a rejoints, donc c'était un petit peu road trip en famille au Québec. C'était
Super.
assez sympa.
Ouais.
Mais en fait, ce que j'ai fait pour le logement, donc il y a deux possibilités pour les personnes qui partent en échange universitaire. Soit tu prends les logements de l'université, justement les résidences, les gîtes. Donc là, tu te renseignes directement avec l'université, c'est eux qui gèrent absolument tout.
Ouais.
C'est sympa parce que tu es avec des personnes, des étudiants, mais c'est un peu plus cher que ce que tu peux trouver par toi-même.
D'accord.
Ou alors, tu as un site, ça, c'est comme Le Bon Coin, mais au Québec, ça s'appelle Kijiji, où tu peux trouver des locations d'appartements, des chambres étudiantes, etc. Donc moi, j'ai regardé ça. Et quand on est arrivé dans la ville, en fait, on a d'abord pris un Airbnb pour quelques jours et
Ouais.
j'ai fait mes démarches sur place et j'ai trouvé très rapidement la chambre qui me convenait. Donc là, actuellement, c'est ce qui se fait beaucoup au Canada, en fait. Tu es en sous-sol, sous la maison d'un mec, en fait, et le sous-sol est aménagé. Là, par exemple, on a trois chambres, salle de bain, cuisine, etc. Donc,
Bien
voilà.
isolé en plus, quoi.
Écoute, c'est pas si mal isolé. Je pensais avoir assez froid, mais là, tu vois, on est le 22 novembre. Il fait quand même déjà des moins 10, moins 15.
Ouais, et ouais.
Et t'as pas froid. Franchement, ça tient bien le coup.
Et quand t'es arrivé là-bas, ta première expérience en salle de muscu par rapport à la France, parce que t'es quand même, il faut rappeler, t'es quand même passionné de muscu à la base.
Ouais, c'est ça.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Déjà, comment t'as choisi ta salle?
Écoute, on va dire que au début j'avais une salle en tête, vraiment, parce que je me suis dit, je vais au Canada, j'ai envie de me faire le délire de la grosse le gym comme ils appellent ici, enfin américain, que ça soit Canada ou États-Unis, t'as ce côté vraiment avec les gros gyms, les bonnes machines, etc. Donc je voulais aller au World Gym. Donc le World Gym, c'est une chaîne au Québec, en fait.
Ils sont partout aux États-Unis aussi, ouais.
Je crois qu'ils sont aussi aux États-Unis, ouais, mais ils sont partout au Québec. C'est un truc quand même assez connu. Et donc je suis allé faire une première séance d'essai là-bas. Et le petit détail qui fait beaucoup mine de rien, c'est que c'était assez loin de chez moi.
Oui.
Faut savoir que la ville où je suis en fait est très mal desservie au niveau des transports. Donc il y a pas de métro, pas de tram, rien du tout. C'est des bus qui passent toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure. Donc c'est voilà. Donc j'ai fait un test là-bas. Donc déjà je suis arrivé, première impression. Bon bah t'es impressionné quoi. T'as un immense local où c'est marqué en gros World Gym avec je crois que c'était que du Nautilus les machines.
Ouais.
Ils ont beaucoup de Nautilus ici. Alors au final, Nautilus fait des bonnes machines, mais pas que. Hein.
Ah ouais, t'as pu un peu comparer, ouais.
Ouais, il y en a quand même quelques-unes qui sont pas, notamment quelques machines à abdos ou tirages horizontaux qui sont pas incroyables, mais à part ça, il y a quand même des bons trucs. Et justement, je m'étais imaginé vraiment, voilà, les gens savent s'entraîner, les gens sont pas là pour déconner. Alors, les gens effectivement sont pas là pour déconner. Tu vois quand même que dans les salles de muscu, ils savent ce qu'ils ont à faire parce qu'ils sont quand même bien encadrés, en fait.
Il y a beaucoup
ils sont bien encadrés. Il y a beaucoup de coachs là. En fait, j'ai changé de salle de muscu parce que celle-là était trop, trop loin. Donc, j'en ai pris une à 15 minutes à pied de chez moi.
Ouais.
Qui est aussi bien équipée, qui ferait vraiment le taf. Et il y a pas beaucoup de monde. C'est un des critères importants pour une salle de muscu, c'est que ça soit pas bondé à chaque fois.
Ouais.
Et en fait, dès que tu arrives, et ça j'ai trouvé vraiment bien en France, je sais pas si d'autres salles font ça. Moi j'étais à Fitness Park parce que bah voilà, c'est une chaîne qui est partout en France, donc c'est pratique quand tu te déplaces.
Ouais.
Mais généralement, tu t'inscris, tu donnes ta carte de crédit et basta.
C'est
ici, tu arrives, c'est bon. Alors, quels sont vos antécédents dans le sport? Depuis combien de temps vous pratiquez? Est-ce que vous avez déjà eu une blessure? Est-ce que vous avez dû arrêter le sport à cause d'une blessure? Taille, poids, âge. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous en avez plusieurs? Ok, on range tout ça et à la fin, eh ben, on regarde si vos objectifs ont été atteints. Déjà, d'entrée de jeu, tu as ça.
C'est une forme de pression un peu. Tu sais que tu vas pas pour rien, quoi, parce qu'ils vont te demander des comptes.
Alors, ils vont te demander des comptes, mais d'un côté, c'est aussi pour que toi, tu n'y ailles pas dans le vide, en fait. Ils essayent vraiment de te dire, bah voilà, tu vas t'entraîner, tu essaies de comprendre pourquoi tu vas t'entraîner et d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose à atteindre. Ensuite, c'est vrai que dans les salles, tu vois, quand même, il y a beaucoup de, surtout la salle où je suis, il y a beaucoup de personnes qui sont encadrées, plus que ce que je voyais en France. Donc, généralement, il y a souvent un coach avec eux. Et ça va être pour tout, hein. Vraiment, ça peut être de la transformation physique, donc perte ou prise de poids, comme de la préparation physique pour des athlètes, autre que de l'hypertrophie. Ça peut être de l'endurance, de la vitesse, de l'explosivité, de la puissance, ça peut de tout.
Ouais.
Donc vraiment, tu vois que les gens sont bien encadrés. Après, c'est pas pour autant que, enfin, tu vois toujours les mêmes mouvements approximatifs, les mêmes exercices un peu farfelus ou alors pas forcément exécutés de la bonne façon. Ça reste quand même.
C'est universel.
Mais tu vois que c'est universel. Mais tu vois que les gens savent quand même s'entraîner et les mecs, il y a pas mal de montagnes quand même. Il y a pas mal de montagnes. Ouais. Tu vois que la culture sportive est présente dès le plus jeune âge, quoi.
Et vraiment. Ils sont plus matinaux que nous ou pas du tout pour aller s'entraîner? Parce que souvent on dit bon, au Canada, États-Unis, tout ça, les gens là-bas ils font du sport dès le matin avant d'aller travailler, etc. Plus qu'en France, est-ce que tu as pu voir ça? Enfin, je sais pas si toi c'est sur tes créneaux d'ailleurs, mais est-ce que tu as pu le constater ou pas du tout? Enfin, peut-être alors, dans ta classe, ceux qui pratiquent, peut-être qu'ils y vont avant les cours, mais.
Écoute, moi mes créneaux sont assez gérés par mes cours, mais c'est vrai que si je peux m'entraîner le matin, j'aime bien, ou alors ça va être un peu en dehors des heures de pointe, type vers 13h. Là, généralement, il y a plus grand monde, midi 13h, il y a plus grand monde. J'ai pas vu vraiment de différence par rapport à la France. Comme en France, plutôt dans le matin, ça va être les personnes un peu plus âgées. Sachant que en fait il y a une salle de musculation universitaire justement qui est pas mal, honnêtement, pour le prix que tu payes. En plus, c'est pas mal du tout. Faut savoir que ouais, les salles de muscu sont moins chères qu'en France, beaucoup moins chères qu'en France.
Combien c'est là l'abonnement que t'as pris?
Pour donner un exemple, je paye $28 canadiens par mois, sachant que tu divises par 0,65 pour avoir en euros, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Donc ça fait quand même pas mal moins cher.
Ouais. Et pour une salle aussi bien équipée, enfin équipée comme la meilleure en France, quoi.
Pour une salle bien équipée et en plus de ça, enfin, c'est pour une salle bien équipée, c'est celle que j'ai, c'est aussi une chaîne que tu retrouves partout au Québec. Le World Gym était encore moins cher. Le World
Gym, ben, c'est ce que j'avais entendu.
Je crois que si tu prends le... Il y a un abonnement à $10 par mois, un truc comme ça.
Le World Gym, il n'y a pas un gorille sur le truc, non? C'est pas celle-là?
Non, il me semble pas. Je crois pas que ce soit celui-là.
World Gym avec une... Attends. Est-ce que je confonds World Gym et il y avait autre chose? Il y avait Power Gym. Non, Power House. Mais World Gym...
World Gym, si, mais en fait je vois le logo dessus, mais en fait le logo, normalement t'as juste la map monde en fait à côté du World Gym.
D'accord.
Mais là je vois un logo avec le gorille, donc possiblement un ancien.
Ouais, sur les t-shirts en fait ils le mettaient. Et après au niveau, parce que là je sais que les gens ça leur plaît, puis moi aussi, tout le côté nutrition et tout, quand t'as réussi à prendre tes marques facilement, les aliments c'était les mêmes, les boutiques et tout c'est organisé pareil, ou il a fallu complètement que tu te réorganises de ce côté là
Alors honnêtement, c'est là que tu te rends compte qu'en France on est pas mal fourni niveau bouffe.
Ah ouais?
Ouais, au niveau notamment de la qualité, de la provenance, etc. Si tu veux, ici déjà, la malbouffe est mise en avant énormément.
Je crois que c'est 75% de bouffe, ils appellent ça process food ou je sais plus quoi là.
Ouais.
C'est 75% de leur bouffe, enfin aux États-Unis en tout cas. Alors Canada, je pense que ça doit pas être loin derrière.
Écoute, ça m'étonnerait pas, parce que bon, déjà, moi j'avais l'habitude en France, quand j'étais à Grenoble, j'étais en coloc et puis on faisait un peu les courses séparées, dans le sens où moi j'allais acheter tout ce qui était partie bio dans les magasins bio.
Ouais.
Et mon coloc allait acheter en grande surface tout ce qu'on prenait pas bio, riz, pâtes, etc.
D'accord.
Donc j'allais rarement dans les grandes surfaces. Donc j'avais pas un petit peu tout ce côté marketing à fond, même si dans les magasins d'autres, on a quand même pas mal. Donc là, je suis arrivé. Déjà, leurs centres commerciaux sont immenses, sont énormes. Et la première chose que tu vois, c'est des énormes promos sur les céréales raffinées, évidemment, les barres chocolatées, les Monsters, que des trucs comme ça, en fait.
D'accord.
Donc, ça va vraiment être le premier truc que tu vois. Et c'est ce qui est très mis en avant, en fait. Ça va être de la malbouffe ou alors de la bouffe qui donne envie, mais qui n'est pas forcément saine. Parce que moi, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est composition des aliments, notamment des aliments transformés. Si j'en prends, ça va être des choses avec un minimum de choses dedans.
Ouais.
Et là, bon, alors c'est compliqué de trouver des choses de ce type-là. Au niveau des fruits et légumes, par exemple, si tu essayes de prendre du bio, c'est rarement du bio local. Ça va beaucoup être du bio des États-Unis, du Mexique, du Chili. Donc après,
et
tu poses pas la question. Non, pas de produits français, à mon souvenir. Au niveau des fromages, peut-être.
Ouais.
Moi, j'en consomme rarement, donc je saurais pas trop te dire, mais je sais qu'au niveau du fromage, je pense qu'il y a quelques produits français. Ça coûte d'autant plus cher.
Et du vin, mais aussi. Ouais.
Vin, écoute, australien. Il y a pas mal de vins australiens.
D'accord.
Ouais. Pas mal de vins australiens. Après, il va y avoir des vins d'Europe aussi, portugais, un petit peu de français quand même, quelques italiens et espagnols.
Mais en gros, si tu veux manger sainement, ça te revient plus cher qu'en France. Enfin,
écoute,
plus complexe et plus cher, quoi.
C'est plus complexe. En fait, tout dépend qu'est-ce que tu regardes quand tu achètes. Dans le sens où moi, je vais essayer de regarder... En plus de manger sainement, je vais essayer de limiter un petit peu tout ce qui est empreinte carbone. Donc, je vais essayer de regarder la provenance. Si le produit n'est pas sur-emballé, par exemple, il y a pas mal, et moi c'est ce qui m'énerve un peu ici, il y a pas mal de produits bio où tu as une barquette en carton, plus un truc en plastique, plus un deuxième truc en plastique, donc niveau déchets, t'en as pas mal. Et la plupart viennent pas forcément, enfin viennent un petit peu d'ailleurs. Donc par contre, au Québec, tu as beaucoup de produits du Québec, pas forcément bio, mais beaucoup de produits du Québec. Donc ils essaient pas mal de promouvoir ça.
Ensuite,
au niveau des prix, si tu vas acheter des choses de bonne qualité, la différence de prix est assez élevée, notamment au niveau de tout ce qui est viande, par exemple, le poulet, entre un poulet basique, bas de gamme un petit peu, et le poulet sans antibiotiques, élevé à la ferme, patati patata, tu vas en avoir un à 9$ le kilo, un à 27$ le kilo, tu vois.
D'accord.
Donc, en fonction de la qualité que tu demandes sur tes aliments, ça va pas mal augmenter. Après, si je te prends mon panier moyen sur la semaine, le prix doit augmenter plus ou moins de 10-15€ par semaine. Sachant qu'avant, on faisait les courses pour deux. Donc, ça réduit un petit peu les coûts.
Ouais.
Mais moi, je trouve pas excessivement cher par rapport à ce que je payais avant. Si tu convertis en fait le dollar en euros, après quand même, tu vois, tu vas taper des pommes à 5-6$ le kilo. Les fruits et légumes sont quand même assez chers, relativement chers. Mais tu peux t'en sortir si t'achètes pas non plus tout et n'importe quoi. Mais justement, c'est très facile de prendre un petit quelque chose en plus, une petite sucrerie, un petit truc comme ça, parce que...
Ah, ils te le foutent en pleine tronche, quoi.
Ah, ils te le foutent en pleine tronche, et c'est ce qui coûte le moins cher, et c'est là où il y a le plus de promos, tu vois.
Ouais, ouais. Donc, ils essayent de mettre dessus, de mettre en avant ça, ouais. Mais après, au niveau... dans les rayons, tu trouves des compléments alimentaires, des choses comme ça, que tu n'aurais pas en France ?
Alors, les compléments alimentaires, tu en trouves partout. Ici, c'est incroyable, t'en trouves absolument partout. Donc, dans les supermarchés, dans les pharmacies.
On m'a dit dans les stations-service.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans les stations-service, tu trouves des barres protéinées, des glaces basse calorie. Ils vendent beaucoup de tout ce qui est barres protéinées, ça, ils en vendent pas mal. Donc, ça, t'en trouves partout. Après, qualité, pas forcément. C'est un peu toujours la même chose.
Et c'est des marques improbables en plus que tu n'as jamais vu nulle part.
C'est des marques, je ne sais pas d'où ça sort. Mais les marques que tu trouves en supermarché, c'est souvent des. Enfin, je ne sais pas si c'est américain, enfin, si c'est, ouais, si c'est
Et tu dois
américain,
avoir
si c'est
No
canadien.
Food, Natrolls, ces grosses marques-là.
Écoute, je saurais plus dire parce que je passe devant, je regarde, mais je ne m'arrête pas énormément. Je sais qu'il y a certaines marques, par contre, de compléments, mais plus dans les magasins de compléments qui sont canadiens. Donc,
ouais.
La protéine est canadienne, etc. Mais c'est vrai que les compléments, ici, tu vas en avoir partout. Et c'est un sujet beaucoup moins tabou qu'en France. Ça, c'est la chose
Par rapport à quoi?
Par rapport au fait où, par exemple, écoute, moi, quand j'étais en France, que ça soit dans l'université, pourtant en STAPS avec des sportifs, hein, ou alors
ouais.
dans le tram, ou alors dehors, tu sors ton shaker, tu sors ton truc, les gens te regardent comme un dopé, tu vois.
Oui.
D'ailleurs, les gens pensaient que j'étais dopé. Et ici, c'est quelque chose vraiment de normal, quoi. Tu vois, en cours, tout le monde a son shaker avec soi. Tout le monde mange sa collation. Alors ici, ça se fait beaucoup de manger en cours. Ça pose pas de problème. Mais tout le monde mange sa collation en cours, donc vraiment est très assidu sur le moment de manger, sur qu'est-ce qu'ils doivent manger, etc. Les coachs sportifs vont te prescrire assez facilement, te conseiller en tout cas assez facilement des compléments alimentaires.
D'accord.
Après, au niveau de leur connaissances, on va dire vraiment, est-ce qu'ils ont des connaissances plus pointues qu'en France? Je suis rentré dans une boutique de compléments ici qui s'appelle Popeye Supplément. C'est une boutique extrêmement connue au Québec.
Ouais.
J'ai posé quelques questions sur certains produits. Au niveau des réponses, c'était un peu limité à certains moments. Tu vois, dès que tu essaies d'approfondir un petit peu plus que juste le côté, un petit peu basique du produit, des fois, ils savent pas forcément te répondre, donc c'est pas forcément plus informé que chez nous.
Ouais.
Mais ils sont beaucoup plus à l'aise sur la prise de compléments.
Ben, c'est déjà un premier pas. Après, c'est sûr que en France, il faut dire ce qu'il y a, on n'a pas la culture du sport déjà.
Ouais.
Donc, partant de là, déjà, ça va être très compliqué, quoi. À part être passionné, ici, on a beaucoup de supporters, mais pas beaucoup de sportifs. Et les seuls sportifs qu'il y a et qui durent, c'est les passionnés. Et on n'est pas très nombreux, faut dire ce qui est. Il y a des vagues, mais c'est rare d'avoir des personnes vraiment qui adoptent ça comme style de vie. Alors,
Ouais.
que c'est plus apparemment bien ancré dans les mentalités, apparemment là où tu es en ce moment.
Bah c'est ça. Et c'est tu vois, je discutais avec deux trois personnes de ma promo là ici. Beaucoup depuis qu'ils sont gamins, le sport phare ici c'est le hockey.
Ouais.
Donc niveau physique, ça envoie quand même pas mal. Je suis allé voir 2-3 matchs de hockey universitaire. C'est quand même des bons sportifs les mecs. Mais du coup, ils sont vraiment depuis qu'ils sont petits dans cette mentalité sportive, donc d'entraînement régulier, justement de régularité. Ils ont dans leur tête vraiment une mentalité de sportif. En plus de ça, tu vas avoir quand même le côté des sportifs de haut niveau de l'université qui vont être assez bien reconnus. Tu as vraiment ce côté, ouais, je fais du sport et je baigne dans le sport depuis que je suis gamin. Ou c'est un petit peu, justement, c'est normal, quoi. C'est vraiment normal. Pour une majorité ici.
Et du dopage, t'en vois plus qu'en France?
Écoute, ils en parlent pas. Après, tu vois certaines personnes dans les salles ou même à l'université, tu te dis bon, alors lui, putain, j'aimerais bien connaître sa diète parce que en tout cas, c'est un beau bébé. Mais ils en parlent pas forcément. Est-ce que j'en vois plus qu'en France? J'ai pas tant l'impression, en tout cas dans le milieu où je suis.
Mais est-ce
Là,
qu'ils en débattent plus? Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais en France, tu vois, c'est le sujet buzz, quoi. Tu vois, tu veux rameuter tout le monde, là, tu parles de dopage. Tu vois, tu parles de dopage, ça intéresse tout le monde. Est-ce que là-bas, ils ont ce côté où ils se rassurent tout le temps en disant « Ouais, c'est parce qu'il est dopé, c'est parce qu'il est dopé » ou des choses comme ça? Est-ce que tu l'entends, toi?
Écoute, moi, non, je l'entends pas. Après, je regarde pas mal aussi de sportifs sur YouTube, que ce soit canadien ou américain. De ce que je vois par rapport à la France, c'est que tu as quand même certains débats sur ah ouais, mais lui se dope pas, machin. Mais peut-être un peu moins polémique, tu vois.
Et ouais, ce qu'il faut voir après, c'est surtout dans les commentaires, tu sais, sous les vidéos, parce que c'est là
Ouais,
souvent
c'est ça.
qu'il y a le
C'est
plus
ça.
de. Et je sais pas pourquoi en France il y a ce truc-là. Je sais pas. C'est vraiment
Écoute,
étrange.
ouais.
J'arrive pas à l'identifier, moi, en fait. Qu'est-ce que ça apporte aux gens quand tu leur dis que t'es naturel, ils te croient pas. Pour ceux qui te croient, tant mieux. Et après, quand quelqu'un est dopé mais qu'il l'avoue pas, ça les, tu sais, ils vont pousser jusqu'au bout, essayer de le faire avouer. Mais bon, le gars, s'il est champion de bodybuilding, t'as pas besoin qu'il avoue quoi que ce soit, tu vois.
Non,
Enfin,
bien sûr,
faut
bien
pas
sûr.
s'épuiser pour rien, quoi. Enfin, le bodybuilding, c'est du bodybuilding, quoi. Et je sais pas pourquoi il y a ce truc là en France. J'ai l'impression que c'est une perte de temps, moi, en fait.
Bah, écoute, moi, dans ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre aussi, alors je crois que c'est dans un des podcasts d'Aiki, de Cher Fitness,
Ouais.
en France, il y a un gros problème avec la réussite. Tu sais, ce tabou de l'argent, ce tabou de combien tu gagnes, est-ce que tu as bien réussi, est-ce que machin, patati patata. Donc, j'ai l'impression que dès que quelqu'un fait un petit peu mieux que les autres et que toi, tu n'y arrives pas, tu essaies de lui trouver une excuse. Et en l'occurrence, en musculation, ça va être ouais, mais il y arrive parce qu'il est dopé, tu vois. Sauf que
Ouais.
certains mecs, ils ont beau être dopés, tu fais pas le quart du travail que lui va faire, tu vois. Donc, j'ai l'impression, et ça, c'est ce qui ressortait justement des podcasts de certains en France, tu as un problème par rapport au succès qu'il faut un petit peu le justifier. Il y
Ou pas le
arrive parce
montrer.
qu'il fait ça. Ouais, ou pas le montrer.
Moi, j'ai parlé avec des personnes qui ont très bien réussi, qui ne veulent pas le montrer du tout, parce que ils ont même peur de perdre je vais pas dire leurs clients, mais leurs élèves, les choses comme ça, tout simplement parce que ils vont être vus comme quelqu'un qui a très bien réussi, qui conduit une belle bagnole, qui a une belle baraque, etc. Et ça peut créer de la jalousie, donc par précaution, ces personnes-là, ils veulent pas montrer, quoi. Est-ce que
Ouais.
je peux difficilement comprendre? Après, moi, personnellement, j'ai été motivé par des gens, des Américains, qui, moi, c'était leur réussite qui me motivait. En fait, le fait de me dire, ces gars-là, ils arrivent à travailler dans leur passion et en même temps à avoir leur petite maison, alors même si c'est un truc modeste, mais avoir leur baraque, leur bagnole, leur famille, et assurer à tous les points de vue, on va dire, grâce à leur passion, moi ça m'inspire à fond. Je pense qu'en France, il y a ce côté, si toi tu l'as fait, bah, tu m'as piqué la place, en gros, je pourrais pas, enfin je sais
Ouais.
pas, cette mentalité un petit peu, mais... Même moi, je dois l'avoir, hein, quelque part, puisque je suis français, donc forcément, ça doit être, pour certaines choses. Pour moi, c'est un peu de la jalousie. Tu vois, une forme de jalousie. Et moi, je le ressentais beaucoup au début, quand j'ai lancé ma chaîne et que j'ai commencé à en vivre à 100%. Je ressentais beaucoup ce côté, c'est pas un travail, tu devrais le donner gratuit, ce que tu fais. Va
Ah ouais.
travailler comme tout le monde, en fait. Mais c'est quoi, travailler comme tout le monde? Je veux dire, quelle est la différence en fait entre travailler ce que je fais et monter un mur ou réparer une bagnole ou quoi? Chose que j'ai fait
Ah ouais,
d'ailleurs par le passé.
c'est ça.
Mais parce que tu vois, c'est pas accepté. C'est pas accepté que tu travailles à un truc qui te plaît. Et moi, en fait, ce que je voyais par rapport justement au Canada, enfin les Canadiens et tout, c'est qu'ils ont beaucoup plus de facilité à faire leur promotion, à se vendre, etc. Chose que nous, on n'ose pas faire du tout. Tu vois, on va paraître tout de suite comme arrogant, comme ah, il veut vendre son truc, etc. Là-bas, on a l'impression que se vendre, c'est... Et puis même, ils ont un don pour le marketing. Alors, plus les Américains, mais pour, tu vois, se faire leur autopromotion, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est ça. Alors, j'arrive pas encore à savoir si c'est réel ou si c'est un petit peu une façade, mais tu as l'impression quand même ici que les personnes vont t'encourager à faire des choses, tu vois. Tu vas leur parler de certains projets, de certains trucs, ils vont tout de suite être plutôt dans le côté positif. Donc, ah, c'est génial, ah, c'est comme ça, c'est très bien. Plutôt que d'émettre un petit peu des comment dire, des
Des
restrictions en disant, ouais, voilà. Après, j'arrive pas encore à savoir si c'est sincère, tu vois, ou si ça reste un petit peu une façade. Mais t'as quand même, j'ai l'impression que t'as quand même un côté où ils vont plus facilement te pousser vers le haut plutôt que vers le bas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est ma vision en tant que touriste ici, et peut-être que dans le milieu c'est différent. Mais en tout cas, c'est la sensation que ça donne en étant là, c'est que t'as envie de faire des projets, t'as envie de faire quelque chose parce que les gens vont pas être là à te dire ah ouais mais non mais ça c'est pas possible et puis si tu fais ça comme ça bah c'est trop simple etc. Donc t'as ce côté un petit peu où ils vont t'encourager un peu plus justement.
Mais ça, c'est bien. En plus, c'est gratuit. Je veux dire, ça, que tu l'encourages ou tu décourages, ça te coûte rien. Et peut-être qu'ils se disent que s'ils encouragent plein de personnes dans le lot, il y en a bien qui va réussir et qu'il se rappellera de lui en disant, t'étais le seul à croire en moi.
Tu vois, c'est possible, c'est possible. Ouais.
Donc, c'est peut-être une stratégie pour faire du réseau dans le futur, quoi. Non, mais en tout cas, bah, c'est intéressant. Après, au niveau de tes études, etc., tu voulais que, enfin, on avait dit qu'on parlerait un petit peu du sport sur ordonnance. J'en avais vaguement parlé dans une des actus il y a quelque temps. Alors, je vais juste rappeler rapidement que je vais lire hein, en fait l'article sur le site. Il y a un décret du 30 décembre 2016 qui précise le médecin traitant peut prescrire au patient atteint d'une affection de longue durée une activité physique dispensée par l'un des intervenants suivants. Donc après, ils mettent plusieurs personnes qui peuvent prescrire ça. Bon, en règle générale, c'est les professionnels de santé, hein. Et en fait, dans la liste des affections de longue durée, on va retrouver une trentaine de pathologies de mémoire. Cancer, alors t'as toutes les maladies métaboliques, Alzheimer, Parkinson, VIH, les maladies du foie, cirrhose, etc., insuffisance cardiaque, enfin bon, il y a plein de trucs, les gens peuvent aller voir la liste sur le site sport-ordonnance.fr, et on voulait un petit peu discuter de ça, donc si t'as des choses à dire, on t'écoute.
Alors juste par rapport aux affections de longue durée, la liste qui est notée sur le site, donc c'est ce qu'ils appellent la ALD30 en fait, avec toutes les affections inscrites, et ils en ont rajouté certains en fait qui vont ça on peut le trouver sur le site amélie.fr, c'est le site de l'assurance maladie, où en fait va y avoir ALD31, c'est les affections hors liste, donc en fait ça va être une affection grave d'une maladie en fait de forme évolutive, ou la ALD32, ça va être plusieurs affections qui entraîne à une étape pathologique. Donc en fait, ça, ils l'ont pas forcément mis à jour sur le site Sport sur ordonnance. Mais voilà, pour les personnes qui sont dans ces cas-là, ça, on peut le voir sur le site amélie.fr. Donc par rapport au sport sur ordonnance, en fait, moi je trouve quand même assez bien ce décret, dans le sens où on commence à dire bon bah voilà, le sport, c'est peut-être utile pour certaines pathologies, et ça l'est. Il y a beaucoup d'études en fait qui ont montré que l'activité physique, c'est une pratique non médicamenteuse en fait, et ça permet un meilleur état de santé. Ça fait partie intégrante de certains traitements, notamment pour l'AVC par exemple, ou pour pas mal de pathologies. Donc vraiment, ce décret, ce qui est bien, c'est que ça va optimiser la santé des personnes et ça va vraiment encouragé à aller vers le sport. Après, ce qui fonctionne, en fait, si tu veux, tu vas voir ton médecin. Et le médecin, en fait, va te faire une évaluation. Une évaluation de toute ta condition. Et en fonction de ça, il va déjà te déterminer un petit peu. Donc, est-ce que tu vas avoir une limitation fonctionnelle au niveau de l'autonomie minime, modéré ou alors extrême. Mmh. En fonction de ça, il va t'indiquer vers différents corps de métier. Justement, comme tu l'as très bien dit, il y a les métiers, les professionnels de la santé. Donc ça va plutôt être kinésithérapeute, ergo, physio, etc. Mmh. Et après, il va y avoir en fait les professionnels de sport, en fait, les éducateurs sportifs en activité physique adaptée. Donc, c'est justement moi ce que je fais, en APA, où là, on va avoir un autre travail en fait que les professionnels de la santé, où on va vraiment utiliser le sport comme moyen de réhabilitation, comme moyen de traitement. Donc c'est vraiment un travail en fait qui se fait en collaboration avec les professionnels de la santé. Le petit problème en fait, c'est qu'au niveau de cette loi, normalement, alors je ne sais pas si ça a été changé depuis, mais en fait normalement le médecin amène les personnes qui ont une limitation sévère au plan fonctionnel, voir les paramédicaux, donc voir les kinés, les ergos, etc. Puis après, s'il y a une atténuation, on va intervenir nous en tant que APA. Sauf que certaines pathologies, en fait, tu vas jamais vraiment avoir d'atténuation. Donc, on devrait pouvoir intervenir dès le début avec ces personnes. Par exemple, une des cliniques où j'ai pu faire un stage, des personnes qui étaient en insuffisance cardiaque ou en problème respiratoire, dans une même journée, allaient voir des kinés, faire de la rééducation et allaient nous voir nous. Donc, on allait leur faire, par exemple, des exercices de respiration, des exercices de renforcement musculaire, des exercices de marche, le tout vraiment en fait adapté à leur pathologie et à leurs restrictions. Donc on va vraiment se référer à qu'est-ce que le médecin va dire. Donc lui, il doit pas faire une activité physique trop intense. Lui, il peut y aller. Faut faire attention à telle ou telle chose. Donc on va vraiment agir là-dessus.
J'ai une question qui me vient. Comment le médecin? Est-ce que le médecin a un background pour pouvoir déterminer si le corps est apte ou pas à faire du sport? C'est complexe ça. Est-ce qu'il consulte, est-ce qu'il te consulte toi, par exemple, ou ton homologue, celui qui fait le même métier que toi, ou est-ce qu'il se base juste sur ses compétences de médecin? Je trouve ça étrange, moi, s'il se base que sur ses compétences, s'il en a pas dans le sport, par exemple. Et je trouve ça logique si c'est plutôt une réunion entre le médecin et le professionnel du sport, entre guillemets, quoi.
Alors, ça va vraiment être le médecin, en fait, qui va déterminer ça. Parce que nous, justement, on est des professionnels du sport, sport adapté. On n'est pas des professionnels de la santé. Donc, déjà, on ne peut pas émettre de diagnostic. Donc ça, déjà, c'est vraiment c'est assez drôle parce qu'ici, au Canada, ils font vraiment la différence quand on prend quelqu'un en charge. On doit parler d'un client et pas d'un patient, parce que parler d'un patient, c'est mettre un diagnostic. Donc, c'est vraiment le médecin, en fait, via toute une batterie de tests, qui va évaluer si la personne, via son organisme et sa pathologie, est apte à faire une activité physique. Donc, en fait, il va faire des tests sur la fréquence cardiaque, sur sa tension artérielle, sur sa glycémie, par exemple, si c'est une personne diabétique. Tout ça, en fait, vont indiquer si oui ou non il peut faire l'activité physique. Je donne un exemple. Une personne qui est, par exemple, en insuffisance cardiaque, en fonction de sa possibilité d'augmenter sa fréquence cardiaque, nous, en tant que professionnel du sport, on va lui faire une activité physique en restant à un certain seuil de fréquence cardiaque. Pareil pour une personne qui a des problèmes respiratoires, par exemple une maladie obstructive respiratoire, on va lui faire une activité physique. En fait, en évaluant à chaque fois qu'on le fait s'entraîner, on va évaluer justement sa difficulté respiratoire sur une échelle, par exemple, de 0 à 10. On va lui demander, bon, bah là, comment vous vous sentez? De 0, vous n'avez aucun symptôme, à 10, vous êtes vraiment mal. Ensuite de ça, on va prendre certaines mesures tout au long de l'activité. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très suivi. Mais au tout début, c'est vraiment le médecin qui va nous dire, bon, bah, lui, il peut en faire, lui, il peut pas en faire. Et s'il peut en faire, c'est à telle ou telle fréquence. Et avec telle ou telle précaution.
C'est des tests, ouais, d'accord.
C'est ça.
Après, comment ça se passe ça? Parce que là, quand il dit sport sur ordonnance, ça veut dire que demain, admettons, une personne qui est diabétique va voir son généraliste. Le généraliste lui dit « Ok, je vous prescris du sport ». Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va avec sa petite ordonnance, il va à la salle de sport, il prend la facture et il l'envoie à la Sécu?
Alors, justement, par rapport à la Sécu, il faudrait que je regarde, moi je me base vraiment justement par rapport au site sportsurordonnance.fr. Il faudrait voir si ça a changé, mais il me semble pas. La sécurité sociale ne rembourse pas le sport sur ordonnance, Et après, ça va être en fonction de la mutuelle que les personnes D'accord. ont, qui vont être plus ou moins remboursées. En fonction, normalement, certaines mutuelles vont rembourser des professionnels à la santé à hauteur d'un certain budget. Par exemple, je sais pas, 200 euros par année, tu as le droit d'aller voir un kiné, un ostéo, etc.
Ouais, mais ça, je l'ai déjà, moi.
Voilà. Après, en fait, moi, dans ce que je vois sur ce sport sur ordonnance, c'est que le médecin va vraiment, en fait, évaluer la capacité fonctionnelle de la personne. Parce que si toi, par exemple, tu vas faire du sport de ton plein gré, tu vas pas vraiment savoir à quel niveau tu es capable de faire du sport, tu vois. Mmh. Tu vas peut-être le ressentir, tu vas te dire, bon, bah voilà, peut-être qu'à 5 minutes, je suis fatigué. Mais vraiment au niveau de l'endurance, de ta force, de l'équilibre, tu vas pas forcément le savoir. Donc ça, c'est le médecin qui va faire des tests. Et en fait, en fonction de ces tests, bah, comme dans une clinique, il va t'indiquer la profession qui est le plus adaptée, on va dire, à ta condition actuelle. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et il va dire à ce professionnel de la santé ou professionnel du sport, comment est-ce qu'il doit agir sur cette personne. Donc, il va vraiment faire, en fait, en plus de vraiment une batterie de tests sur ta capacité fonctionnelle, contrairement à si toi par exemple tu vas juste t'es diabétique ou en insuffisance cardiaque et tu vas voir quelqu'un, t'as pas eu de recommandation du médecin avant. Déjà normalement, en tout cas je sais qu'au Canada c'est le cas, si par exemple moi en tant que professionnel du sport adapté je reçois une personne qui a par exemple une maladie cardiovasculaire ou métabolique et qui veut faire du sport, je vais lui recommander d'avoir un avis médical. Je vais pas forcément le prendre en tant que tel directement, tu vois, parce que ça peut D'accord. être dangereux pour la personne.
D'accord. Mais alors cette histoire de sur ordonnance, ça veut pas dire que ça sera remboursé, quoi.
Ça veut pas dire que ça sera remboursé. Ça dépend encore une fois des mutuelles. Ça dépend. Alors, à ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça dépend aussi de quel professionnel tu vas voir. Si je dis pas de bêtises, il me semble que les kinés sont remboursés.
Le kiné en France est remboursé, c'est sûr.
Kiné est remboursé. Par contre, par exemple, les professeurs en activité physique adaptée, comme moi, on n'est pas remboursé. Donc après, c'est à voir avec les mutuelles. C'est ce qui peut créer justement des fois une petite réticence, où la personne va se dire, ah bah mince, je suis pas remboursé, je vais devoir sortir des sous. Ouais, mais peut-être que la prévention et les bienfaits qu'on va te faire avec l'activité sportive va te permettre d'économiser un traitement par la suite parce que ton état se sera empiré. Tu vois. Donc bah après, ça c'est peut être la prévention à faire.
Est-ce qu'en France, il y a un diplôme qui te permettra d'être sur la liste des activités remboursées?
Alors ça...
Un coach remboursé, quoi. Parce que finalement, c'est ça. Le médecin va faire un diagnostic, il va renvoyer vers un professionnel. Admettons, il a un doute sur les poumons, il ne sait pas trop, il le renvoie vers un pneumologue ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mm-hmm. Je crois que c'est ça.
Ouais, ça.
Donc, il va aller faire des trucs avancés. Ils vont lui dire, OK, mais par contre, si vous voulez faire du sport, je vous en prescris, mais sur ordonnance. Donc, il va le diriger vers probablement un coach qui sera... qui aura le même régime qu'un kiné, quoi, en gros. Ça pourra pas être une salle de sport sans encadrement.
Alors,
ça
normalement,
il y aura toujours un encadrement, quoi.
Après, au niveau, en fait, il y a vraiment, des restrictions assez strictes sur qui peut encadrer quel type de personne. Par exemple, t'es obligé d'avoir une formation de sport adapté avec des personnes pathologiques pour pouvoir traiter avec ce type de personnes. Dans le sens où nous, on a vraiment justement, contrairement à une formation STAPS classique, on va dire entraînement sportif pour être coach ou préparateur physique, nous vraiment, on a des connaissances médicales, alors peut-être pas aussi poussées qu'un médecin, mais quand même des connaissances médicales sur les pathologies, sur comment répondre les pathologies et comment l'entraînement répond sur ces pathologies. Donc, on est vraiment formé pour. Un coach sportif qui a aucune formation, rien du tout, ne peut pas normalement légalement exercer avec ce type de personne. Il faut vraiment.
Donc, il y a vraiment des coachs particuliers qui vont. Enfin, là, la formation que tu es en train de faire. Logiquement, toi, tu devrais rentrer dans la case du remboursement.
Oui, enfin, et non,
de la prescription.
Sens, c'est... Ouais, Alors, je rentre dans le... ouais, c'est ça. Je rentre dans la prescription parce que, justement, comme le dit dans le décret, en fait, il y a trois types de personnes qui peuvent exercer sur sport sur ordonnance. Donc, c'est les professionnels de la santé, les professionnels titulaires d'un diplôme dans l'activité physique adaptée, donc ce que je fais actuellement. Ouais. Et ils ont rajouté par la suite les professionnels et personnes qualifiées. Donc, en fait, ça va être, par exemple, et ça, c'est ce qui est un petit peu contesté, mais ça va être, par exemple, des éducateurs sportifs qui vont avoir fait une formation sur l'activité physique adaptée. Après, il faut voir aussi quelle est la formation, parce que nous, on a quand même une formation universitaire de 3 ans. Est-ce qu'une formation de quelques mois équivaut en termes de compétences? Ça, c'est à voir. Mais donc, au niveau des personnes qui vont être prescrites par le sport sur ordonnance, justement, on va en faire partie, nous, enseignants en activité physique adaptée. Sauf que on va pas être remboursé. Donc après ça va être tout un travail avec la sécurité sociale ou alors avec les mutuelles qu'elles intègrent dans leur remboursement justement les enseignants en activité physique adaptée pour déjà un petit peu promouvoir ce métier et inciter les gens à venir nous voir. Parce que c'est vrai que dès qu'il faut payer quelque chose et sortir de sa poche, il y a des réticences. Tu vois.
Mais oui, là aujourd'hui, si tu parles aux Français, tu leur dis qu'est-ce que tu fais comme examen pour au niveau de ta santé, ils vont te dire bon, les moins frileux, dentiste, ophtalmologie, ophtalmo, la médecine générale et un peu de kiné s'ils se font mal. Par contre, tu leur parles d'un chiropracteur ou d'un ostéo, ils vont te dire « Ah oui, j'aimerais bien, mais c'est cher. »
C'est ça, ouais.
Donc, à mon avis, tant qu'ils devront payer pour t'avoir avec eux dans la salle, ils ne le feront pas. En fait, ce n'est pas qu'ils ne le feront pas, c'est ceux qui vont le faire, c'est ceux qui ont les moyens, le temps et l'envie. En fait, tout ce que n'ont pas les gens. Et, et moi, je pense que ça crée en fait un bug. C'est bien de faire une loi comme ça. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'ils font avec la loi, c'est qu'ils ont sorti un truc très intéressant, mais qu'ils vont pas au bout. Parce que s'ils remboursent pas, personne va t'appeler, toi.
C'est ça. Ils vont pas au bout. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est un gros problème en France. Et je le vois même au Canada, hein, c'est le même problème. C'est qu'il y a un travail qui est à faire sur la prévention. Il faut faire de la prévention et pas forcément uniquement soigner les personnes. Il y a des choses très simples, en fait, au niveau même de l'activité physique, des habitudes à prendre très, très simples. Tu vois, c'est quoi? C'est 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Donc, ça fait pas énorme. C'est même de la marche, tu vois. On prend tout le temps le principe des 30 minutes de marche par jour. Ça peut être deux fois 15 minutes dans la journée, etc. Rien que ça, sur la santé des personnes, ça va être énorme. Apprendre un petit peu à bouger, faire des recommandations sur quoi manger, que mettre dans son assiette, plein de choses comme ça. Donc déjà, ça passe par la prévention pour déjà se rendre compte que le sport est important pour la personne. Et peut-être que si déjà ces personnes vont avoir envie de ça et vont se rendre compte que c'est important, les mutuelles vont pouvoir aussi par la suite proposer des remboursements. Parce qu'il va y avoir une certaine importance, une certaine nécessité, en fait, d'aller voir ces personnes.
Ben moi, je le vois, la mutuelle que j'ai. Alors, moi, je suis indépendant, donc je n'ai pas une mutuelle d'entreprise ou autre. J'ai une mutuelle d'indépendant, je ne sais pas comment on dit. Mais donc, je la paye plein pot. Et moi, dans les formules qu'il m'avait proposées, il m'avait demandé « qu'est-ce que vous faites comme soin ?» Je lui dis rien, je vais jamais chez le médecin, je fais rien en fait, moi j'ai pas de traitement. Et après je leur ai dit si, par contre régulièrement je vais voir l'ostéo, je fais de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnose, des choses comme ça. Et en fait c'est là où en fait tu te heurtes à un truc, c'est que tous ces trucs là, c'est pas remboursé, mais il y a de plus en plus de gens qui le demandent, que ce le soit. Donc du coup ils te rajoutent des forfaits. Donc moi je crois que à l'année j'ai 3 séances d'ostéo remboursées. Alors c'est pas, ils disent pas ostéopathe, ils te disent 3 ou 4 séances de médecine alternative.
Ouais.
Alors que pourtant, j'ai eu de très bons résultats avec toutes les autres disciplines. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc-là. Et en plus, ça leur permettrait d'être moins cher parce que du coup, ils auraient plus de monde, ça serait plus accessible, etc. Et je pense, moi, que franchement, ça ne change pas grand-chose parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, qui va voir un médecin et le médecin le fait flipper, il lui dit « Monsieur, là, si vous faites pas, vous perdez pas votre bide rapidement, là, c'est diabète, enfin, vous avez déjà le diabète et le cholestérol, ça sera l'AVC, la crise cardiaque ou autre chose dans quelques années. » Le mec, ça lui fait peur, il se dit « Bon, allez, je me mets au sport. » S'il a la thune, il prendra un coach. Lui, que ça soit remboursé ou pas, il l'aurait fait dans tous les cas. Mais après, s'il y a toutes ces personnes-là, alors je suis pas forcément pour le remboursement et tout, parce que c'est bien quand même que les gens payent, mais bon, il faut encore avoir les moyens. Je me dis, il y a entre le kiné et ce que toi tu fais, donc le sport adapté, on va dire, je vois pas de différence en termes de hiérarchiquement, pour moi, c'est à la même hauteur.
Hiérarchiquement, c'est la même hauteur et en plus de ça, c'est vraiment très complémentaire en fait. Il y a beaucoup de mésententes, même au niveau, même dans le domaine en fait, parce que déjà, nous en tant qu'enseignants en activité physique adaptée, alors déjà, on est très peu connus de la population, mais aussi très peu connus des médecins et des centres médicaux.
Et tu parles hôpitaux, de ça en etc. France ou qu'au Canada ?
Alors, moi, je te parle en France dans le sens où au Canada. En fait, au Canada, quand tu fais la formation, en même temps, tu es coach, en même temps, tu peux bosser avec des personnes qui présentent des pathologies. Donc, moi, j'ai plutôt parlé d'en France parce que c'est un peu plus ce que je connais. On est très peu connus. Donc, par exemple, aussi, il y a un problème, c'est qu'un médecin qui va faire un diagnostic d'une personne et puis lui proposer du sport sur ordonnance, il ne va pas forcément le renvoyer vers un enseignant d'activité physique adaptée. Parce qu'il connaît pas forcément, en fait.
Ouais,
il connaît plus les procédures et tout ça pour un kiné, donc il va l'envoyer vers un kiné.
Mais là, il faut spammer l'ordre des médecins dans leur boîte mail et tout ça, quoi.
C'est ça. Et par exemple, là, tu vois, je vois, il y a certaines cliniques, certains hôpitaux qui vont pas forcément engager des enseignants en activité physique adaptée, ou alors qui vont préférer justement s'il y a des restrictions budgétaires supprimer ce genre de poste plutôt qu'un poste de kiné, etc. Parce que c'est plus ancré dans la société. Et alors que c'est quelque chose, c'est deux choses qui sont différentes et vraiment très complémentaires en fait. On c'est vraiment un travail qui se fait à plusieurs. Et remettre une personne sur pied, c'est un travail vraiment multidisciplinaire. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant, tu vois, quand j'ai fait mon stage dans cette clinique. On travaillait entre kiné, ergo, enseignant en activité physique adaptée, nutritionniste, psychologue, médecin, cardiologue. Donc, tu as vraiment, en fait, des personnes qui sont formées pour certaines choses, qui vont travailler ensemble. Et en plus de ça, donc, la population ne connaît pas ce métier, les médecins ne le connaissent pas. Donc, c'est vraiment toute une promotion à faire, en fait, sur... voilà en quoi on peut être utile et en quoi ça peut être utile justement d'avoir des mutuelles qui prennent en compte ce genre de métier justement.
Ouais, après je me dis aussi ça doit être la discipline qui est la moins acceptée par le patient parce que c'est la seule discipline qui lui demande de faire un effort parce que bon... Le kiné peut faire mal. Bah, en fait, c'est un petit peu le travail du kiné aujourd'hui. Le kiné, il va un petit peu plus loin que ses compétences actuellement, si tu regardes bien. Et souvent, c'est lui qui prend la casquette du coach sportif, hein, en début de comment on appelle ça, de rééducation. Et si tu regardes bien. Les gens ont beaucoup plus de facilité à aller faire des soins où ils sont entre guillemets immobiles et ils se laissent faire, alors que là c'est l'inverse. C'est toi qui va rien faire et le client, parce qu'on peut pas dire patient, qui va se mettre à bouger. Et je pense que ça aussi ça peut créer une résistance parce que moi j'avoue que quand je me suis blessé à l'épaule, je suis allé chez le kiné pendant 6 mois à peu près, deux fois par semaine, et ben forcément je pouvais le faire parce que j'étais plus ou moins inerte sur la table quoi. Et c'est lui qui me faisait des manipulations, des massages. C'était pas agréable parce que c'était parfois un peu violent, mais j'avais pas, je forçais pas, quoi. Et je pense que ça, ça peut déranger beaucoup de personnes. Se dire, pour aller mieux, j'ai le choix entre... Je parle en connaissance de cause parce que dans mon entourage, il y a des gens qui sont comme ça. Les personnes ont devant eux soit un stack de pilules, soit un verre d'eau et aller au sport, quoi. Et les gens prennent le stack de pilules. Parce que pour eux, c'est ce qui fonctionne depuis des années, c'est la médecine, c'est la santé, etc. Et je pense qu'ils vont être un petit peu dans le même comportement par rapport à ça. Alors, j'espère pas pour ton boulot, parce que il faut quand même que tu bosses. Mais dans les mentalités, je pense qu'au fond, il faut quand même avoir une petite forme d'ouverture d'esprit. Et comme tu dis, ça peut être fait avec énormément de prévention. Si le médecin commence à parler, là, c'est bon, parce que le médecin... au-dessus du médecin, c'est Dieu, donc donc si le médecin parle à tout, surtout l'ancienne génération, hein, enfin la génération de nos parents et grands-parents, eux, ils voient que par le médecin. Aujourd'hui, c'est fini, mais avant, on voyait que par le médecin, et je pense que il a le rôle de pouvoir aiguiller, et je pense que à part lui, personne pourrait. C'est pour ça qu'il faut spammer les médecins.
Alors, c'est totalement juste ce que tu dis, justement, par rapport à qu'est-ce qui est ancré dans l'image des personnes. J'ai l'impression que c'est encore très compliqué de comprendre que faire du sport va te faire aller mieux. En fait, les personnes mettent pas forcément en relation, tu vois, traitement et activité physique. Parce que, concrètement, ça fait partie du traitement, mais voilà, c'est qu'on leur a toujours prescrit des médicaments ou alors de la rééducation avec un kiné, un ostéo, faire des mouvements, un peu du stretching, machin, mais on a rarement dit pour aller mieux bouger, pour aller mieux faites du renforcement musculaire, faites de l'activité cardiovasculaire, faites tout ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas encore comprise. Et je pense que effectivement, ça passerait par la prévention énormément. Pourquoi pas, je sais. Alors là, je sais absolument pas si ça se fait, mais des formations ou des formations justement pour les professionnels de la santé qui connaissent pas forcément ces métiers, de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec les enseignants en activité physique adaptée, et vraiment de faire la promotion de ça et de faire la prévention là-dessus en disant le sport, c'est bon pour la santé et c'est bon aussi comme traitement sur vos problèmes. Et c'est vraiment quelque chose à insister dessus et à faire comprendre aux gens qu'on peut les soigner, qu'on peut leur améliorer la qualité de leur vie, améliorer leur autonomie via l'activité physique.
Ouais, mais après, ça peut passer aussi par, tu sais, par exemple, en France, moi, j'ai été dans le monde de l'entreprise pendant quelques années. Même pas mal, et du coup on te faisait passer le SST, les choses comme ça, des trucs de secourisme et tout. Moi j'étais dans le milieu de la sécurité, donc ça me servait, mais après il y en a pour qui ça servira jamais, parce qu'ils sont dans un bureau, et c'est bien de l'avoir pour la prévention, mais ça servira pas, je veux dire, forcément. Ça coûterait quoi, alors peut-être pas à la Croix-Rouge, mais un autre organisme, de faire 3 jours de formation dans les entreprises pour justement avoir ce discours-là. Moi, je pense que ça peut être profitable en plus à tout le monde. Une personne moins malade, donc moins en arrêt maladie, plus résistante, donc plus productive, plus musclée, plus en forme, donc plus productive, même si on parle pas forcément d'argent, mais quand je dis plus productive, c'est à rendement égal, la personne est moins fatiguée. Donc, c'est quand même plus profitable pour la personne. Et toutes ces choses-là, pour moi, ça me paraît très simple à mettre en place. Je vois pas où est la complexité. Tu vois, t'envoies un nutritionniste et une personne comme toi, par exemple, en entreprise. Comme toi, vu que tu peux coacher les gens, tu peux avoir un discours sur l'activité physique. En 3 jours, t'as contaminé peut-être, je sais pas, 500 salariés. Donc, tu vois, ce genre de choses, je sais pas. Le médecin, le problème, c'est que le médecin, il va être aujourd'hui... Enfin, moi, ce que je vois, parce que des fois, je parle avec certains, aujourd'hui, le médecin devient limite relation vendeur-client, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de perdre son patient. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais
ouais, je vois.
Si demain le patient arrive et qu'il dit je veux pas, moi je veux pas faire de sport, redonnez-moi mon traitement, il va pas lui dire non en fait. C'est très rare, sauf si c'est contre-indiqué et risqué pour sa santé. Mais si le traitement est aussi valable, il va pas trop le pousser à faire de sport. Il va aller dans le sens de son patient. Et je pense que là, c'est... Je sais pas. Après, comme on dit, tu sais, à trop vouloir aider les gens, en fait, on se tire une balle dans le pied parce que les gens, y en a beaucoup, ils veulent pas être aidés. Ils sont bien dans leur truc. Et il faut être là pour les personnes, par contre, qui veulent être aidées. Et ces personnes-là, malheureusement, je pense qu'elles sont pas assez nombreuses à se faire entendre par rapport à cette loi, etc. Et elles sont même pas au courant que ça existe.
Bah, c'est vrai que cette loi de sport sur ordonnance, par exemple, moi, j'en avais entendu parler parce qu'on nous en a parlé, parce que je suis dans le milieu.
Mais on n'en a pas parlé à TF1. Hein.
Mais je n'ai pas forcément entendu parler dans les médias. Bon, alors, je regarde très peu la télévision ou quoi que ce soit. Je ne regarde même pas du tout. Mais je n'ai absolument pas entendu parler. Ouais, sur Internet, j'en ai pas vu. Il n'y a pas eu d'affiches, je sais pas, sur les arrêts de bus, sur des trucs comme ça. Donc, c'est un petit peu pareil, tu sais, c'est ce que je reproche un peu par rapport à tout ce qui est la bonne bouffe, quoi manger, comment manger, comment faire du sport, comment s'entraîner. Si tu te renseignes pas par toi-même, à part manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple, on va rien te dire de plus. Et c'est toujours un petit peu le problème, bah, on en revient de la prévention, c'est que les choses sont pas forcément mises en avant et on va rester sur quelque chose de très global. Juste manger, bouger, patati patata. Mais on va pas vraiment dire, bah, ça c'est possible, il existe telle loi, il existe tel corps de métier qui peut vous aider pour telle chose, etc., etc. C'est quelque chose qui est pas encore, il y a pas beaucoup de promotion par rapport à ça. On n'en entend pas parler, justement.
Mm-hmm. Bon, on espère que ça changera. Mais en tout cas, merci d'avoir intervenu pour nous parler de tout ça. On fera peut-être un autre épisode si on a des questions, si des personnes ont envie de te poser des questions, s'il y a des sportifs qui ont envie de suivre le même cursus que toi. Comme ça, au moins, ça permettra d'avoir un petit peu plus. Donc, si les personnes ont des questions, il y a toujours le lien, certainement, dans la description de l'épisode pour, alors, directement sur mon site ou alors en message audio sur le petit lien. Est-ce que tu peux commencer à coacher des gens et tout aujourd'hui ou pas encore?
Alors actuellement j'ai en fait là actuellement j'ai avec la licence 2 que j'ai acquise il me semble que j'ai pas encore la titularisation en fait professionnelle, j'ai juste je crois la titularisation de d'encadrant en activité physique mais actuellement pas encore non.
Bon, ben pour les personnes qui veulent précommander un coaching avec toi, ils pourront te contacter où? Là, t'as un Instagram, t'as quelque chose?
Alors j'ai un Instagram ou alors une adresse mail. Ouais. C'est avec plaisir que je répondrai à des questions ou que je donnerai des okay. informations sur beaucoup de choses.
Ben tu me la donneras, je la mettrai en description ouais. d'épisode comme ça au moins les personnes. Parce que je pense que ça va intéresser une minorité. Forcément, mais il y a des personnes qui vont avoir envie d'avoir beaucoup d'infos là-dessus, quoi. C'est sûr que ça va pas intéresser tout le monde de partir au Canada et de suivre ton cursus, mais je pense que les personnes un peu curieuses, et il y en a, je sais, dans ceux qui nous écoutent, vont avoir besoin d'informations. Bon, en tout cas, merci, parce que là, il est quelle heure? Il est 8h chez toi, ici, il est 15h...
9h15, là.
9h15, là, 15h20. Et tu vas faire quoi? Tu vas t'entraîner ou tu vas en cours là? Ah ben non, t'es en repos, tu m'as dit.
Non, là aujourd'hui je vais m'entraîner, mais je vais peut-être attendre une petite heure. Je vais bosser un peu, puis après on va aller s'entraîner.
Ok, bon ben super. Bon en tout cas, merci.
Merci encore, ouais.
Et puis si vous aimez, on refera un épisode. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Donc, je vous rappelle juste que le podcast Fitness Smith est 100% gratuit, que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Apple Podcast, iTunes, Android Podcast, SoundCloud, etc., etc., etc. N'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats. Et si vous voulez soutenir comme les VIP, si vous voulez soutenir cet épisode, vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir, donc financièrement, et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP, plein de bonus, etc., des programmes, etc., etc. Donc merci à tous pour votre confiance, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.